Y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Aujourd'hui, avec au moins trois comédies. La plus classique, c'est Daddy Cool, comédie de Maxime Govard, qu'on écoutera en présence de Laurence Arnay, sa comédienne. La plus novatrice, c'est Jeune Femme, de Léonore Serrail. Et la plus glaçante, eh bien, c'est Mise à mort du cerf sacré. Elle est présentée comme ça par son réalisateur Yorgos Lanthimos, qu'on écoutera aussi. Et puis Manu nous parlera de Coréam, drame de Ildiko Enyedi. On aura l'occasion aussi de jouer à un blind test pour s'amuser avec la filmographie d'Albert Dupontel, dont le film Au revoir là-haut est actuellement sur les écrans. Et quant à moi, je vais vous parler du dernier film d'Olivier Marchal, Carbone.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Tu pourrais me trouver une société bidon et m'ouvrir un compte bancaire à l'étranger ?
Tu nous parles de piquer de la TVA sur du gaz carbonique.
Tu peux rembourser tes dettes et même garder ton entreprise. Pourquoi tu voudrais partager avec nous ?
Plus on est fou, plus on mise, plus on prend.
Antoine, c'est l'État que t'arnaques quand tu fais ça, attention. Hein.
Combien il te faut pour commencer ?
1,6 milliard d'euros, c'est le montant, empoché entre 2008 et 2009 par des arnaqueurs qui se sont lancés dans la fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Le principe semble simple, les entreprises polluantes payent une taxe qu'elles peuvent revendre si elles ont fait des efforts en matière d'environnement. Dans ce cas, elles ont 6 mois pour payer la TVA, mais en multipliant le nombre de sociétés, les achats et les reventes, et en se réfugiant dans les paradis fiscaux, le temps que le fisc se réveille, il est trop tard, l'argent est blanchi. 1,6 milliard d'euros, c'est donc ce qu'aura perdu le fisc français. Mais il y a, un volet judiciaire, car plusieurs personnes impliquées dans le scandale ont par ailleurs été assassinées quand d'autres attendent d'être extradées. C'est de cette vaste fraude dont il est question dans Carbone, dernier film d'Olivier Marchal, qui fait son retour au cinéma après avoir pris les rênes de la série Braco. L'ancien policier s'est fait une spécialité du polar en faisant revivre avec 36 Quais des Orfèvres notamment les grandes oppositions de flics à l'écran. Ici, le monde de l'entreprise vient rejoindre celui des voyous. Benoît Magimel incarne Antoine Roca, le patron d'une petite PME familiale qui a du mal à payer taxes et impôts et qui doit donc gérer les dettes. Avec ça, il est méprisé par son beau-père et sa virilité en prend un coup quand sa femme se met aussi à le traiter d'incapable. C'est à ce moment-là qu'avec des potes de poker et de son fidèle comptable, il pense à l'arnaque à la taxe carbone. Une arnaque qui va lui permettre presque légalement, en utilisant une faille du système, de flouer l'État.
Où est-ce qu'on va trouver tout cet oseille, nous ?
Mon pote qui a même, pote de la boxe, peut nous aider ?
Il va en faire quoi de tout ce pognon ?
Le plus sûr, ce serait d'ouvrir des comptes offshore.
Alors on crée notre propre boîte de trading.
Ça veut dire que si je t'en donne 5 aujourd'hui, tu m'en rends 10 dans 3 mois. Pas intérêt à rater ton coup, mon pote.
Eh ouais. Mais comme un casse doit être financé, cette arnaque a besoin également de généreux investisseurs. Le petit patron va donc côtoyer le grand banditisme et c'est là qu'Olivier Marchal jubile. Le réalisateur l'avoue, il a moins de respect pour les escrocs que pour les bandits qu'il juge plus courageux. Alors, en entrant dans l'univers du grand banditisme, on côtoie aussi la violence. C'est même assez tranché pour le réalisateur qui a voulu que son personnage et ses associés conservent un code moral quand les bandits veulent faire appliquer leurs règles. Les deux mondes vont donc s'affronter et le drame va se jouer, sans qu'il en soit fait mystère puisque le film est construit comme un flashback avec une histoire racontée à la première personne, c'est celle du petit escroc, évidemment. Magimel s'en tire très bien, dans ce registre, passant du petit patron marié payant ses taxes et ses employés à celui d'escroc vivant la nuit au milieu des boîtes de striptease, des ambiances de discothèque et des tables de poker. Pour peaufiner son drame, Olivier Marchal a placé de nombreux personnages secondaires. Il y a déjà le noyau des escrocs, dont un comptable, interprété par un Michael Youn sobre et convaincant.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui va pas ?
Qu'est-ce qui va pas ?
Et tout ça, Antoine, c'est trop gros, ça va trop vite, surtout avec ces deux connards. Regarde-les, ils sont tout le temps farcis. Ça va nous retomber dessus.
C'est mes amis, c'est des bons gars, je te jure.
D'où c'est tes amis ? C'est des potes de poker, tu les connais que de la nuit. Ils en ont rien à foutre de ta gueule. Tout ce qui les intéresse, c'est flamber, baiser les culs, s'en foutre plein le pif. On va droit dans le mur avec eux. Tu le sais. Au fond de toi, tu le sais, Antoine.
Bon, t'as entendu Dolly ? Hein ? On va refourguer le cash encore 2-3 mois. On va faire prospérer, après on liquide tout. Oh, Lolo. Tout ça, c'est que du vent. Et on laissera que du vent derrière nous.
Dans cette affaire, on y trouve aussi deux frères dont l'un sans cesse sur le fil imprévisible et tête à claque et qui devient un enjeu dramatique. De même, la relation que le personnage entretient avec son beau-père revanchard dynamisera le récit. Des enjeux classiques pour un polar où la virilité, l'honneur, la violence se côtoient à plus ou moins forte dose. Dans cet univers de mecs, Olivier Marchal fait également intervenir des femmes, mais sans finesse. À peine esquissés, ces personnages ne sont que des faire-valoir. Il aurait donc pu s'abstenir en se concentrant davantage sur la matière de son récit, à savoir l'escroquerie et la descente aux enfers de son personnage. La mise en scène est un peu pataude, d'autant plus si on repense au modèle dont s'est inspiré Olivier Marchal, à savoir The Most Violent Year de J.C. Chandor, avec Oscar Isaac et Jessica Chastain. Un film prodigieux qui plaçait un personnage soucieux de la morale aux prises avec les magouilles inévitables dans un New York de la fin des années 70. Or, c'est très étrange que le réalisateur français ait cité ce film, car avec Carbone, on est davantage dans le cliché du flic ripou au gangster ultra-violent en passant par l'épouse juive ultra-possessive. Au passage, voici le beau-père juif ultra sentencieux, interprété par un Depardieu qui n'a pas à se forcer tellement son personnage est écrit sans finesse.
Les affaires se traitent par la prudence, par l'autorité et les bons avis. Tu aurais dû relire Cicéron avant de te lancer dans des opérations financières dont tu n'as pas mesuré les conséquences désastreuses. Un bon patron de PME, c'est un patron capable d'engager tout son avoir financier dans son entreprise. C'est celui qui exerce des fonctions réelles et uniques de responsabilité et de gestion. Celui qui met en jeu son savoir et, en cas d'échec, son honneur. Je ne suis pas certain que tu puisses te vanter de réunir toutes ces qualités.
Papa.
Ton mari est un incapable, Dana, et tu le sais. Tu comptes t'en sortir comment?
Déjà en vous demandant d'arrêter de m'insulter devant ma femme et mon fils.
Ta femme est avant tout ma fille. Et ton fils, mon petit-fils. L'idée de les imaginer un jour dans une situation précaire par ta faute m'autorise à te parler comme je l'entends, que cela te plaise ou non.
Et la scène dure encore plus longtemps et c'est au début du film. Alors Olivier Marchal gâche un peu son sujet en le simplifiant et radicalisant beaucoup trop ses personnages. À défaut d'un film brillant, d'un polar à couper le souffle, comme on peut le lire sur les affiches, le réalisateur se contente de faire le boulot, de développer son histoire en misant davantage sur les ambiances dans lesquelles les acteurs peuvent faire quelques coups d'éclat. Mais il manque la manière, il manque le style. On note quand même que les acteurs s'en tirent très bien. Benoît Magimel et puis Gringe aussi, qu'on voit, et qui aussi un rôle en toute sobriété.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie.
C'est la première interview de cette émission. Mais avant d'écouter le réalisateur Maxime Govard pour Daddy Cool et puis son actrice Laurence Arnay, on écoute ce qu'a pensé du film Marine.
Adrien, interprété par Vincent Elbaz, trop immature, trop incertain pour fonder une famille, se fait quitter par sa femme Maude, dessinatrice qui, contrairement à lui, a su se construire une belle carrière. Déterminé à reconquérir son ex et à lui prouver qu'il peut avoir un vrai travail, il décide d'ouvrir une crèche à domicile. Alors, on commence à être sérieusement fatigué de voir des comédies axées sur des mecs immatures, mais tellement cool, qui font face à des personnages de nana écrits pour être détestés, car tellement moins cool. Et le film de Maxime Govard se vautre ici dans les stéréotypes du genre, sans le moindre recul. Comment est-il possible qu'un réalisateur aussi jeune fasse une comédie aussi ringarde? C'est ce que l'on se demande à la vision de ce film qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 100 fois. Et c'est vraiment dommage de la part de Maxime Govard, qui avait pourtant réalisé le très bon Toute Première Fois, comédie atypique sur un sujet plutôt casse-gueule, à savoir un homo qui devenait hétéro, et dont il parvenait à se sortir haut la main. Ici, tout est tellement cousu de fil blanc que dès les premières images du film, on peut anticiper les moindres actions qui vont arriver. C'est une comédie du remariage qui pourrait être politiquement incorrecte, mais qui ne sort jamais des sentiers battus. Pour ma part, je ne vous la conseille vraiment pas, à moins que vous ne soyez un ou une fan inconditionnelle de Vincent Elbaz, qui est vraiment de tous les plans dans le film.
Alors, on est comme ça à Cinérama, on laisse la place à la défense maintenant. On va écouter le réalisateur Maxime Govard et son actrice Laurence Arnay.
J'ai découvert une bague dans sa veste.
Bah ouais, mais c'est peut-être pas pour toi.
Tu veux que ce soit pour qui?
Mais j'en sais rien, sa maîtresse, peut-être.
C'est pas ça le problème, arrête tes conneries.
Non, mais c'est le problème.
Mais je le sais parce qu'il est fidèle.
Mais tous les mecs sont pas comme moi. Tu devrais te méfier.
Il a demandé à une copine de l'aider à choisir la bague. Ça te va, ça?
C'est peut-être elle, sa maîtresse.
Putain, Adrien, tu fais chier, merde!
Qu'est-ce que t'en sais?
Le personnage d'homme immature, c'est un archétype de comédie formidable. C'était un vrai plaisir de pouvoir avoir un personnage comme ça qui soit à la fois régressif et en même temps très, très anticonformiste et un peu libre. Mm-hmm. Et finalement, en fait, le personnage change pas tant que ça à travers le film. C'est notre regard sur lui qui change un peu, et son regard à elle, surtout. Et voilà.
Mais c'est vrai, après tout, ça tape peut-être dans ton dos.
Je vais me marier, alors on passe un second pour notre divorce.
Mais tu peux pas épouser ce mec il est chiant, ça. Il est chiant, c'est un exomile en costard.
C'est vraiment une comédie sur la paternité en fait. Et là où c'est moderne, c'est qu'en fait ils se sont rencontrés il y a très longtemps, mais comme l'âge où on fait les enfants a reculé, bah du coup ils ont passé les années ensemble, ils ont bringué, ils ont changé, ils ont évolué, elle a changé, lui il a pas du tout changé. Et du coup quand vient la question de est-ce qu'on fait un enfant, bah en fait c'est le moment où on peut potentiellement divorcer. Alors qu'à une époque on se mariait, on faisait des enfants, et puis après quand on avait ras-le-bol de vivre tous ensemble, c'était trop le bordel, on divorçait.
Si pas caca jusqu'au dodo de ce soir, je donne pas un, je donne pas deux, je donne trois chocolats. Trois chocolats.
Ouais, mais si, comme ça.
Voilà, mais si caca...
Pas de chocolat. Zéro. Zéro chocolat, on n'en parle plus, non, ça reste dans le paquet.
Moi, le film, c'est pour moi aussi beaucoup une comédie romantique. Et je trouvais que de parler de cet homme qui fait une sorte de déclaration d'amour à travers un sitting et la pseudo-création d'une crèche pour prouver à cette femme-là que c'est la femme de sa vie, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif sur les couples d'aujourd'hui, parce qu'on est un peu déprimé, il y a beaucoup de gens qui se séparent. Et voilà, je trouvais qu'il y avait un message un peu d'espoir sur ce qu'est le couple, et ça me plaisait bien d'avoir, je ne vais pas dire happy end, mais c'est cette attraction entre les deux et... Voilà, cette force qui les unit, quoi.
Je préviens tout le monde, je ne bougerai de mon bureau sans aucun prétexte. Hors de question de lever le petit doigt pour l'aider. Pas parce que ce gros con-là a décidé de me pourrir la vie que je vais venir sauver celle de vos enfants. J'avais de la vie. Alors là, c'est à vos risques et périls.
Je voulais que le film soit un peu à ce que peut être un couple, c'est-à-dire il y a des moments où on se marre de façon très régressive dans un couple, et puis il y a des moments qui sont beaucoup plus tendus, où on peut se quitter parfois pour un malentendu, pour une dispute, et parfois ces deux moments-là peuvent être super rapprochés, c'est-à-dire qu'on peut se marrer, et puis en 10 minutes, on ne sait jamais comment ça se passe, ça peut basculer dans un truc beaucoup plus dramatique, et vice-versa. Donc du coup, voilà, l'ambition du film, c'est d'être vraiment drôle, parfois régressif, et en même temps, d'être très touchant par moments et de pas hésiter à aller un peu dans des choses un peu plus dramatiques.
Je leur écrase bientôt parce qu'ils mangent tellement salement.
Mais ils mangent que du riz.
Ah oui, c'est super bon pour la constipation. Du coup, plus d'odeur et tu changes plus les couches. C'est pas con, hein? Alors juste avant qu'ils repartent, je leur file de la compote de pruneaux, comme ça, le soir, ils lâchent tout chez leurs parents.
Mais c'est pas dangereux?
Non, bah j'ai plus d'idées sur un forum.
Ouais.
Voilà, c'était la voix de Vincent Elbaz, qu'on n'a pas entendu, mais on a entendu Laurence Harnais qui lui donne la réplique, et puis le réalisateur Maxime Govard pour Daddy Cool, sur les écrans depuis le 1er novembre.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
On va faire une petite pause avec les comédies dans Cinérama. Maintenant, c'est le drame avec toi, Manu.
Oui, un drame non dénué d'humour avec corps et âme. Alors le film s'ouvre par une série de plans splendides dans la neige, en pleine nature. Un cerf et une biche se rapprochent et se cherchent. Alors une plénitude, une sorte de paradis perdu, vous saisit immédiatement. Mais paradoxalement, une inquiétude commence aussi à m'envahir. Le souvenir récent de Faute d'amour est bien présent à mon esprit, hein, satire sociale pénible qui démarrait un peu sous les mêmes auspices. Le souvenir douloureux de la leçon de morale assénée par un cinéaste punitif serait-elle encore à l'œuvre avec corps et âme ? D'autant que la suite va un peu dans ce sens. Hein. Changement radical de décor, nous voici dans un abattoir filmé de manière détachée et clinique où Ildiko Ayendi observe le travail quotidien et aliénant des employés ayant en apparence perdu quelque peu de leur humanité. Alors elle nous inflige de surcroît quelques images crues d'une violence insoutenable, car réelle, hein, la mise à mort d'animaux, c'est pas d'effets spéciaux, hein, c'était vraiment filmé dans un abattoir. Alors le sang coule à flot dans un décor immaculé, les effets gore n'ont rien de factice, hein, là on se dit que c'est parti pour deux heures de constats édifiants sur la triste condition humaine, avec métaphore appuyée et nihilisme verrouillé. Mais ouf, cette introduction est un trompe-l'œil, un leurre. Corps et âme prend rapidement une direction opposée et s'aventure vers des contrées beaucoup plus séduisantes et atypiques. Alors on fait la connaissance des deux personnages principaux, hein, des êtres décalés, pas tout à fait à leur place. Maria, nouvelle responsable du contrôle de qualité, et André, directeur financier, croisent leurs regards et sont attirés l'un vers l'autre sans comprendre pourquoi. Alors par un concours de circonstances, il y a une faute dans l'entreprise, une psychologue interroge tous les employés. Il se trouve que Maria et André font le même rêve, sous la forme d'un cerf et d'une biche dans le paysage enneigé entrevu au début. Quand ils apprennent cette coïncidence extraordinaire à la lisière du fantastique, ils tentent de s'unir tant bien que mal en dépit de leurs différences. Alors ce qui les unit, c'est un handicap, l'un émotionnel pour Maria, l'autre physique pour André. À partir de ce sujet fort et insolite, la réalisatrice hongroise signe sous des dehors analytiques et glaciales une magnifique histoire d'amour comme on en voit peu au cinéma, délicate et jamais vièvre. Alors par pudeur ou prudence, hein, elle commence par nous embarquer dans une histoire pétrie d'humour, observant avec beaucoup de tendresse, en fin de compte, des gens dans un milieu qui ne leur convient pas forcément. Alors elle ne juge personne et n'enferme aucun personnage dans des stéréotypes attendus, alors quitte à déjouer nos préjugés. Ensuite, le récit se resserre progressivement sur Maria et André qui tentent de s'affranchir des codes sociaux pour se retrouver comme dans leurs rêves. Plus le film avance, plus l'émotion transpire à l'écran, loin de l'aspect glacé du début. Alors révélé il y a plus de 28 ans avec un film qui avait eu, je crois, une caméra d'or à Cannes, Mon 20e siècle, elle a un peu disparu de la circulation. Hein. Ildiko Yendi n'a pas perdu la main, sa mise en scène est subtile, s'efface derrière l'essentiel, une idylle entre deux inadaptés sociaux. Elle refuse les effets trop visibles. Pourtant, elle parvient à transcender un sujet vieux comme le monde, alors par la qualité de ses cadrages, un montage subtil et une photographie qui sait mettre en valeur les visages magnifiques de ses interprètes inconnus du grand public. D'ailleurs, alors Morzani Ghezza n'est pas comédien, mais éditeur. Il est touchant face à Alexandra Brobelli, véritable révélation de cette œuvre magnifique qui a obtenu l'Ours d'or à Berlin. Alors dans le rôle d'une jeune femme qui ne connaît ni son corps ni les émotions qui la traversent, elle parvient à nous bouleverser. Ayendi évite in extremis de sombrer dans le pessimisme radical et laisse une chance unique à ses personnages. Alors Corps et âme est au final un film poignant à l'image de cette très belle ballade signée Laura Marling qui aurait pu faire basculer cette romance pudique du côté de la tragédie lors d'une scène clé, ce que la réalisatrice a su intelligemment déjouer. Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord. He threw me away. He laughed at my sins. In his arms I must stay. Alors courez voir hein, cette petite merveille qui n'est pas aussi austère qu'elle semble être de prime abord, jusque dans son affiche qui fait très film de l'Est.
Eh bien merci Manu, c'était plutôt un film coup de cœur. C'est aussi le cas de Jeune femme de Léonore Serrail et on retente une comédie après Daddy Cool qui était plutôt classique. Celle-ci est très novatrice selon Marine.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
T'as eu affaire à beaucoup de moments dans ta vie où t'as eu des défis à relever.
Ouais, c'est ça, exactement.
Comme quoi ?
Hello ?
T'es dans la merde.
Bah non.
Hello ? J'avais été chiant, Paula, mais je pensais pas à ce qu'on
va te prendre ça, tu te casses.
Paula revient à Paris. Elle a 30 ans et vient de se faire larguer par son fiancé après une très longue relation. Alors on ne tarde pas à comprendre hein, qu'il est un photographe de renom et qu'elle fut sa muse, voire son faire-valoir pendant pas mal de temps. Totalement désemparée, elle est arrivée à la capitale pour tenter de reconquérir son ancien amant, mais comprend vite qu'il n'y a plus d'espoir et elle se retrouve sans rien, ni amis, ni travail, ni avenir, dans un Paris hostile. Commence alors pour cette jeune femme une quête d'elle-même dans une métropole peu accueillante, mais qui regorge de rencontres potentielles et dans laquelle elle va enfin apprendre à vivre par elle-même et pour elle-même.
On va recruter en ce moment ?
C'est pourquoi c'est pour un CDI ?
Non, c'est pas l'idée, non.
Non, mais c'est un truc bien, parce que moi, j'ai pas envie de me donner de la peine pour un truc...
Oui, non, mais c'est un truc bien, mais c'est pas un CDI.
Ok.
Jeune femme de Léonore Serrail, c'est la caméra d'or du Festival de Cannes 2017, c'est-à-dire le meilleur premier film. Et une fois n'est pas coutume, eh bien le film a fait l'unanimité chez un public cannois dont le cynisme le dispute pourtant habituellement à une froideur permanente. Jeune femme, c'est un peu l'inverse de Daddy Cool. C'est une comédie qui ne ressemble à aucune autre et qui ne suit pas une trame scénaristique basique et toute faite apprise dans une école de cinéma. La narration, à l'image de tout le film d'ailleurs, est très libre et donc vraiment surprenante. Jeune femme est une sorte de film initiatique dans lequel le personnage féminin va non pas apprendre à aimer, mais apprendre à aimer de nouveau, avec tout ce que cela suppose de maladresse et de situations cocasses. Si ce personnage en pleine éducation sentimentale est extrêmement bien écrit, il doit également beaucoup à son interprète, Laetitia Dosch, véritable révélation qui dynamite les clichés habituels autour des personnages féminins. Et elle va croiser lors de ses aventures divers personnages tout aussi hauts en couleur qui la confronteront à la nature humaine. Tout cela avec beaucoup d'émotion et de légèreté.
Vous avez un chat là-dedans ?
Plein ! Je les engraisse et après, je les cuisine pour les manger avec de la compote comme du boudin.
Et puis, point supplémentaire pour ce joli film féministe, il se targue de n'avoir été fait que par des femmes et des jeunes, de surcroît. De la production au décor, en passant évidemment par le scénario et la réalisation. Et ce serait simplement anecdotique s'il n'était pas aussi réussi.
Vous êtes jeune, pleine d'énergie, ça c'est le principal.
Attends, jeune, c'est vite dit. Moi j'ai 31 ans, c'est presque 40, hein. C'est presque le temps de se faire une raison.
Jeune femme est une comédie d'une fraîcheur incomparable derrière sa naïveté apparente. C'est un véritable plaisir de bout en bout et c'est à découvrir sur les écrans le 1er novembre.
Avant de retrouver une dernière fois Marine pour Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, on va pouvoir jouer à un blind test.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
Alors Manu, si tu l'acceptes, tu vas pouvoir jouer et les auditeurs vont pouvoir jouer au blind test spécial Albert Dupontel parce que Au revoir Léo est sur les écrans en ce moment. Ça va être 5 extraits que vous allez pouvoir écouter et il faut trouver forcément un titre de film de la filmographie d'Albert Dupontel. On commence facile.
Je possède un chat, Momo. Momo est un chat depuis de nombreuses années, mais c'est également un félin. Voilà, c'est Momo. Voilà, c'est un chat qui est assez facile à... C'est un chat qui est facile à nourrir. C'est un chat que je peux emmener très facilement dans les déplacements.
C'est d'autant plus facile que le chat est empaillé. Donc
c'est Bernie.
Film de 96 d'Albert Dupontel lui-même. Alors cette fois-ci, il joue l'acteur.
Le premier texte que j'ai rédigé, c'était dans Médecine Utopique. Pour exhorter mes confrères à ne pas se limiter au sein des femmes et à regarder ce qui se passe dans le sein des hommes. Le cancer des testicules, bien sûr, mais aussi l'hypospade. Les bourses vides, les bourses qui gonflent, le phimosis, le kyste du cordon, la décoloration de la peau, les mycoses, la baisse de sensibilité du nœud. J'ai relu l'article et je me suis dit, mais qui peut bien avoir envie de regarder tout ça?
Vous ne savez pas comment c'est les femmes.
Facile aussi.
Et c'est La maladie de Sack de Michel Deville.
Film de 99, encore un extrait.
Assieds-toi. Tu as vu ma situation, je suis un vieillard malade. Tu crois que je peux supporter ça? Des attaques à dominem, et puis après quoi, la dignité nationale, et pourquoi pas de la prison? Tu sais ce que j'ai lu sur moi hier? Sa vie privée, elle non plus, ne fut pas exempte de rumeurs. Qu'est-ce que c'est que ces sales migondis? Des histoires de fric qui retombent sur mon intimité. On croit rêver.
Frédéric, on est dans le même bateau. J'ai besoin de votre aide. Il faut qu'on passe par vos amis dans la magistrature pour calmer cette juge. C'est tout.
Je vais te répondre en 3 points. 1, je ne peux pas le faire. 2, je ne veux pas le faire. 3, je ne vais pas le faire.
Frédéric, maintenant, ça suffit. Pour qui me prenez-vous?
Ouais. Qui est-il, justement?
Et c'est le créateur?
Eh ben non,
non,
pas ben du
non,
tout.
Non, mais je n'ai pas reconnu. Je sais qu'il y avait Claude Riche.
Là, on est vraiment dans le pouvoir. Enfin, c'est une description du pouvoir.
Ah,
c'est
le président, alors. Oui, le président, pas le créateur. Oui, le président.
Film de Lionel Delplanque, film de 2006, 4e extrait.
Dis-moi, tu t'es déjà fait braquer?
Moi?
Non. Et vigilante?
3 fois cette année. Il y a 200 centres forts en France, plus de 6000 convoyeurs de fonds, il faut que ça tombe 3 fois de suite sur notre gueule.
Tu crois que c'est un hasard?
Passe-moi le parisien, j'ai pas lu mon horoscope.
Moi je me dis, tant qu'à se faire un fourgon, autant choisir ceux qui sont pas encore nommés le norme. Les nôtres sont même pas surblindés.
Et quand est-ce que ça va changer?
Pas avant que les Ricains aient racheté. D'ici là, ils changeront rien. Ils ont même pas remplacé les potes disparus alors. C'est dingue. On transporte des millions et la boîte est en plein dépôt de bilan.
C'est quoi ton signe, de nouveau?
Il donnait la réplique cette fois-ci à Jean Dujardin.
Et c'est donc Le Convoyeur de Nicolas Boukrieff.
Une belle réussite pour ce film. Un personnage étrange quand même, Albert Dupontel.
Alors oui, il traîne un passé assez mystérieux.
Et on ne sait pas ce qu'il vient faire là. Chez ses convoyeurs. Dernier extrait.
Toutes les histoires que je te racontais, c'était que des histoires, c'était que virtuel. Il y a plein de choses qui t'intéressaient dans ce que je racontais. Je suis jamais vraiment arrivé à l'extase, mais il y a bien une fois ou deux, sois sincère. Dis-moi, là, il écoutera pas moi. Dis-moi, est-ce que je suis...
Plus que ça.
C'est vrai, plus que ça, mon pote. Plus que ça. Petit bonhomme, plus que ça.
Tu vois que tu parles un telo. Mais non, à la fin, on arrive toujours terre à terre, on ne touche que le sexe. Voilà, après tu lui dis qu'il est l'animal.
Mais oui, son envie basique, il n'y a que ça. Il n'a pas de langage, tu ne peux pas savoir. Donc oui, moi, il y en a vouloir baiser, moi, il y en a vouloir manger. Moi, il y en a Marcus. Mais essaye de diversifier un petit peu tout ça. Et moi, avoir beaucoup de mal, parce que moi, posséder le langage.
Là,
pour toi. Hé, le langage, venez, on y va.
On est arrivé?
Bon, allez-y, moi, je vais rester, j'ai masturbé.
Mais non.
Alors une scène qui se déroule dans Métro Parisien, on l'entend, c'est mal pris comme son, mais c'est assumé. On entend Monica Bellucci, oui, qui forme un couple avec Vincent Cassel, et lui, eh bien Albert Dupontel,
bien sûr,
joue l'ex.
Oui, c'est le irréversible de Gaspard Noé. Oui.
De Gaspard Noé, film de 2002, et ainsi s'achève ce très court blind test Albert Dupontel. On vous dit qu'au revoir là-haut et sur les écrans et qu'il faut y aller.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Comédie glaçante, mise à mort du cerf sacré. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Yorgos Lanthimos était présent à Cannes. Marine l'a vu là-bas, elle nous en parle.
Steven, interprété par Colin Farrell, est un chirurgien reconnu et respecté qui se lie d'amitié avec un étrange adolescent. Ce dernier ne tarde pas à s'immiscer dans sa famille et à montrer un nouveau visage bien plus menaçant.
Comment est mort son père ?
Un chirurgien ne tue jamais un patient. Un anesthésiste peut tuer un patient, mais pas un chirurgien.
N'aie pas peur, maman. Tu verras, toi non plus, t'arriveras plus à bouger. Tu vas t'habituer.
Où est-ce qu'elle est ? Qu'est-ce que tu lui as fait ?
Après l'étrange The Lobster, sorte d'histoire d'amour et d'anticipation nébuleuse, le réalisateur grec Yorgos Lanthimos revient avec Mise à mort du cerf sacré, une histoire tout aussi étrange de vengeance qui confortera sans doute ses admirateurs et troublera d'autant plus ses détracteurs. D'ailleurs, le film est reparti de Cannes avec le prix du scénario, mais il a violemment divisé durant le festival. On retrouve l'austérité de Canine, son premier long métrage qui se déroulait en huis clos, ainsi que le thème de la famille. À la différence que dans Canine, le père de famille empêchait sa progéniture de s'échapper de la maison, alors que dans Mise à mort du cerf sacré, il s'agit d'empêcher un intrus d'entrer dans la cellule familiale et de la faire imploser. Lanthimos s'est parfaitement installé une tension prégnante en jouant sur des non-dits qui n'en deviennent que plus violents et n'hésite pas à user d'effets visuels tels que des zooms très accentués qui sont parfois à la limite du bon goût. Bien plus qu'un simple thriller, son film est également une comédie qui ne dit pas son nom, à l'humour assumé, voire assez déroutant même. La famille en apparence idéale est souvent montrée comme plus effrayante encore que l'adolescent sadique qui les menace, figé dans son quotidien et ses bonnes manières. Et le casting fait honneur à la perversité du scénario. On retrouve Nicole Kidman, qui partageait d'ailleurs l'affiche de deux films cannois cette année avec Colin Farrell, puisqu'ils étaient également réunis dans Les Proies de Sofia Coppola. On retrouve également le très bon Barry Keoghan, qu'on en a vu depuis dans Dunkerque. Mise à mort du cerf sacré est un film perturbant qui réussit à instaurer un profond malaise et à dessiner une critique acerbe de la société bourgeoise. Je vous le recommande pour ma part, mais c'est vraiment un film difficile à appréhender.
On écoute Yorgos Lanthimos qui était présent évidemment à Cannes pour présenter son film et qui eh bien, vous en parle un tout petit peu.
The material is brutal.
C'est vrai que le récit est très dur dans sa totalité, mais ce n'est pas vrai de chaque instant dans le film. On n'a jamais traité le sujet de façon très grave, sur un ton très sérieux. Lors du tournage, on m'a dit « bon, c'est un film comique ». Et c'est vrai, on s'est bien amusé lors du tournage. Certes, on travaille dur, mais... On a surtout essayé de prendre les choses plutôt à la légère. On a fait notre boulot, on s'est bien amusé, puis on a essayé de créer un film vraiment différent.
Je suis vraiment désolé pour Bob. C'est pas si grave. Mais oui, ça l'est.
Pour moi, le concept de sacrifice n'est pas vraiment quelque chose de très clair. Je voulais explorer le sujet. En fait, je parle essentiellement de la justice, des choix dans la vie, la nature humaine, le comportement. Il y a des gens qui se trouvent devant d'énormes dilemmes dans leur vie. Certes, il y a la mythologie grecque, il y a la religion, et cette notion de sacrifice existe depuis toujours. Ce n'est pas un concept que j'aurais inventé, ça fait partie de notre histoire en tant qu'être humain. Ce film soulève un très grand nombre de questions, avant tout.
Le titre...
Quant au titre, le titre m'est venu à cause d'une petite discussion que nous avons eue lors de l'écriture du film. On a découvert qu'il y avait des parallèles avec la tragédie Iphigénie d'Euripide. On s'est dit qu'il serait donc intéressant d'évoquer cette notion très enracinée dans notre culture occidentale. Certes, il y a un lien qu'on a cherché à établir avec cette notion éternelle de sacrifice, cette notion qui est toujours présente depuis le début de la civilisation humaine.
Je ne vois pas pourquoi ce serait à moi d'en payer le prix, ni pourquoi mes enfants en paieraient le prix.
Dans ma tête, c'est ce qui se rapproche le plus de la justice.
C'était le réalisateur grec Yorgos Lanthimos pour Mise à mort du cerf sacré, un film sur les écrans depuis le 1er novembre.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
À quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, il y avait deux interviews dans cette émission. Ce sera encore le cas dans la prochaine émission. On entendra Nicolas Duvauchel et Nekfeu pour Tout nous sépare. Et puis Karim Moussaoui, le réalisateur de En attendant les hirondelles. Et puis, on parlera aussi du dernier film dans lequel joue Karine Viard, Jalouse.